Le dévoilement de Dieu numéro 209. L'unité avec Dieu. 25 avril 2021. Pasteur Brian Kozurek. Philippiens 2, ainsi donc il y a quelque consolation Christ? S'il y a quelque soulagement dans la charité? S'il y a quelque union d'esprit? S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde? De rendez ma joie parfaite? Ayant un même sentiment? Un même amour? Une même âme? Une même pensée? 3 Néhémie, faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, comme étant au-dessus de vous-même. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 6 Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. 7 Mais s'estère dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. 8 Il s'estère humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce matin, comme nous nous approchons de notre adoption en tant que fils, j'aimerais attirer votre attention sur la signification d'être en unité avec notre Père Céleste. Nous lisons ici, dans Philippiens, que le Fils premier-né s'est humilié à la volonté de Dieu, ce qui signifie aller à la croix et mourir à notre place. Remarquez que l'apôtre Paul dit au verset 2 « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Ensuite, au verset 3, il nous dit comment nous parvenons à cette condition ou celle d'être d'un commun accord et une même pensée. Il dit, Néhémie, faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pour être un avec Dieu, vous devez avant tout avoir la pensée de Christ. Vous, Néhémie, pouvez pas avoir un esprit de parti ou une vaine gloire et être un avec Dieu, car vos opinions, vos valeurs et vos jugements, Néhémie, sont pas un avec les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu. Ainsi, quand l'apôtre Paul dit, 3 Néhémie, faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, ce mot vaine gloire en grec est sterkenodoxa. Et le mot kenos signifie vain d'une valeur indigne, ou une opinion par esprit de parti. Remarquez, alors que le sens de la valeur, et de l'opinion, est orienté vers soi, et loin de Dieu. Et c'est la condition opposée, quand on a la pensée de Christ. Il a dit Néhémie, laissez rien se faire par vaine gloire, une doxe indigne, votre intérêt personnel. Et ensuite, il nous dit comment nous devrions entrer dedans. Il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et une fois que la direction de vos pensées est sur les autres et non pas sur soi, vous mourrez en vous-même. Et vous pouvez maintenant entrer dans une condition d'humilité. Le mot humilité a été traduit du mot grec, qui signifie un état d'esprit, qui Néhémie regarde pas à ses propres avantages, mais considère les autres, avant de considérer ses propres besoins. La traduction, NIF, le traduit comme suit. 3 Néhémie, faites rien par ambition égoïste ou de manière partisane. Plutôt, avec humilité, considérez les autres comme étant au-dessus de vous. 4 Néhémie, regardant pas à vos intérêts personnels, mais que chacun de vous regarde aux intérêts des autres. 5 Dans vos relations les uns, les autres, ayez un même état d'esprit, comme Christ Jésus. 6 Qui, ayant la nature même de Dieu, n'a pas considéré cela comme un motif pour en tirer profit. 7 Plutôt, il s'est abaissé en prenant la nature de serviteur, étant fait à la ressemblance humaine. 8 Ayant été trouvé portant l'apparence d'un homme, Il cessa humiliant devenant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. 9 Ainsi, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10 Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre et sous la terre. 11 Et que chaque personne confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. La Bible amplifiée dit, 3 Néhémie fait rien avec égoïsme ou un esprit partisan ayant des motifs factionnels ou conflictuels, mais avec une attitude d'humilité, n'étant ni arrogant, ni opiniâtre, considérez les autres comme étant plus importants que vous-même. Néhémie regardez pas à vos intérêts personnels, mais aussi ceux des autres. La voix le traduit comme suit. 3 Néhémie laissez pas l'égoïsme et l'orgueil prendre le dessus. Embrassez les vraies humilités. Élevez vos têtes pour étendre l'amour à d'autres. 4 Dépassez-vous et Néhémie cherchez pas à protéger vos intérêts personnels. Soyez sincères. Et sécurisez les intérêts de vos voisins d'abord. La Bible du message 3. Néhémie vous mettez pas en avant. N'apportez pas votre bon discours au sommet. 4 Mettez-vous de côté, et aidez les autres à avancer. Néhémie soyez pas obsédé à la recherche de vos avantages. Oubliez-vous pendant un certain temps, afin d'étendre une main pour aider. 5-8 Pensez de vous, ce que Christ Jésus pensait de lui-même. Il avait le même statut que Dieu, mais il n'a pas voulu penser en lui-même, qu'il pouvait se servir des avantages de ce statut. Qu'importe. Pas du tout. Quand le temps vint, il a mis de côté le privilège de la déité et a pris le statut d'un esclave, devenant humain. Étant devenu humain, il est resté humain. C'est un processus d'humilité incroyable. Il n'a pas exigé des privilèges spéciaux. À la place, il a vécu une vie désintéressée, obéissante et ensuite il mourut d'une mort désintéressée, obéissante, et la mort la plus ignominieuse lors de cette crucifixion. 9-11 À cause de cette obéissance, Dieu l'a élevé très haut et l'a honoré à jamais au-dessus de quiconque ou de toute chose, afin que toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, même ceux qui sont morts et enterrés, il n'y a pas longtemps, s'inclineront dans l'adoration devant ce Jésus-Christ, et invoqueront en louange, qu'il est le maître de tout, à la gloire et l'honneur de Dieu, le Père. Remarquez que dans toutes ces différentes traductions, ils portent tous le même message au verset 5, ayez les mêmes sentiments, qui étaient en Christ, que vos pensées soient comme celles de Jésus. Ce qui est semblable à avoir le même état d'esprit que Jésus avait. Et dans la prière de Jésus au Père, il nous dit comment nous devons recevoir le même état d'esprit qu'il avait, par lequel nous devenons un avec Dieu, de même que ou de la même manière que lui, et Dieu était un. Jean 17, 21 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire, la doxa, les opinions, et les valeurs, et les jugements que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme, ce qui veut dire de la même manière que c'était, nous sommes un. Moins 23 Moi, ta parole manifestée en eux, et toi, la parole en moi, tirée afin qu'ils soient parfaitement un. Rendu parfait en quoi? Dans la même parole, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, doxa, mes opinions, mes valeurs, et mes jugements, la gloire que tu m'as donnée. Et nous pouvons avoir toute une prédication à ce sujet, montrant qu'il n'y faisait rien. À moins que le Père lui ait montré quoi faire, Jean 5, 19, 30 et que sa doctrine n'était pas sienne, mais du Père qu'il avait envoyé, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 7, 16. Il n'aimé disait que ce que le Père lui commandait de dire. Jean 12, 49. 50. 14, 31. 10, 18. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste. Le monde n'a émis ta point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Maintenant, ramenons ceci à la prédication de frère Branham, le dévoilement de Dieu P, 119. Nous entendons notre prophète de Dieu, nous dire, mais Dieu Esther à la vue de nous tous, cachés. Esther pareil maintenant. 236 Alors, quand Dieu, dans sa miséricorde, a déchiré le voile, là, il a été exposé au regard de tous. Mais ils étaient tellement absorbés par leur tradition qu'il était encore caché à leurs yeux. Esther pareil aujourd'hui. Toute cette gloire, cachée, Esther cachée pour nous en Christ, la parole, qui Esther notre temple. Ensuite, nous lisons le paragraphe suivant du dévoilement de Dieu P, 120. Remarquez, toute la gloire qui Esther en Dieu Esther dans la parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. Esther cachée à l'incroyant par les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais tout cela Esther en Christ. Tout ce que Dieu était, il s'Esther déversé. Kenos. Et il Esther entré en Christ. Et nous, en Christ, nous sommes derrière le voile. 239 Eh bien, je suis en Christ, direz-vous. Et ensuite, vous croyez qu'il y a trois dieux? Vous baptisez au nom de Père, Fils et Saint-Esprit? Vous croyez à toutes ces traditions et à toutes ces croyances que vous avez? Des anciens? Non, vous êtes encore derrière le voile. Voyez, entrez à l'intérieur du voile. Lui, Christ, Esther la parole. 240 Comment? Je n'ai mis crois pas à la guérison divine. Je n'ai mis crois pas à ces miracles, et aux choses comme celles-là. 241 Eh bien, vous voyez, vous n'êtes pas à l'intérieur du voile. Vous n'en connaissez rien. Voyez, Christ Esther la parole. Et quand nous sommes dans la parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je être en Christ et nier Christ? C'est Esther lui qui a dit, pas une seule parole n'y sera ajoutée, ni n'en sera retranchée. Alors, comment pouvez-vous retrancher et ajouter? Voyez-vous, ça vous montre quel Esther le voile qui vous couvre. Voyez? Maintenant, frère Branham donne plus de détails, quant au fait d'être en Christ, en étant dans sa parole, dans sa prédication, l'unité. Par conséquent, lisons quelques-unes de ses pensées dans la prédication, l'unité 11 février 1962 p. 7. Eh bien, le premier homme et la première femme, dans le jardin d'Éden, étaient en parfaite harmonie avec Dieu, de sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Eh bien, c'est-à-dire ça l'unité parfaite, Dieu et sa création, Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. 15 Tout homme avec sa famille, une famille correcte, bonne, noble, obéissante, ils sont un l'un et l'autre, n'importe quelle famille. Et si dans la famille quelque chose sépare les gens, alors ce n'est Esther pas correct, la famille Esther brisée quelque part. Ils devraient tous être un, le père avec la mère avec le père, les enfants avec les parents avec les enfants, tous en accord. Et quand vous voyez cela, vous avez une belle image. Ensuite au paragraphe 15. Frère Branham éclaircit comment cette unité avec Dieu, est établie. Dans l'unité 11 février 1962 p. 15. Il dit, Jésus a dit, se rendant à la tombe de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi n'y mourra point. Maintenant, frère Branham s'arrête ici et ensuite, il cite Jésus de manière claire, croyez en moi, non pas sur moi, mais en moi. Être en lui, croyant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en lui, croyant. Oh, là là. J'espère que le Saint-Esprit fait pénétrer cela en vous. 25 Eh bien, vous êtes le petit troupeau. C'est la raison pour laquelle pendant cette semaine, j'ai prié et imploré Dieu pour le choix de ce texte, afin de vous montrer où nous nous tenons. Pour ce qui est de croire en lui, vous n'y pouvez pas croire en lui à moins que vous entriez en lui, ou plutôt que lui n'y vienne en vous. C'est alors que vous croyez en lui. C'est alors que vous avez la vie éternelle. Vous croyez en lui jusqu'à ce que vous receviez la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en vous. Alors vous croyez en lui. Vous en moi. Moi en vous. Afin qu'il soit un. Père, comme toi et moi, sommes un. Dieu en Christ. Christ dans l'Église. Voyez-vous? Comme nous sommes un, afin que soit un. Alors comment pouvez-vous être un? Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Voyez-vous? Demeurez. Mes paroles sont en vous. Alors demandez ce que vous voulez. Car ce n'est plus vous, c'est la parole qui est en vous. Et la parole, c'est Dieu. Oh là là! Je n'y pense pas que vous pourriez rendre cela plus clair que ce que Jésus dit. Le problème est que beaucoup des gens aujourd'hui, comme les baptistes et la plupart des fondamentalistes, croient en Jésus. Croyez-vous que Jésus, est né de la Vierge Marie, a vécu, est mort et est ressuscité, il y a de cela 2000 ans. Ils disent, oui, je crois. Et il croit sur lui. Mais c'est différent que de croire en lui. Et notre prophète explique cela pour croire en lui. Vous devez être en lui ou il doit être en vous. Et ensuite vous croyez en lui. Encore dans sa prédication, l'unité 11 février 1962 p. 23. Frère Branham dit, eh bien, gardez ces choses à l'esprit. L'Église doit croire chaque parole, chaque promesse, chaque iota, et réclamer cela pour elle-même, et s'y appliquer. Si j'étais célibataire et que j'étais fiancé à une fille, je lui enverrais quelque chose, une bague de fiançailles, et si elle ne la porte pas, cela montre donc qu'elle n'a pas confiance en moi. Elle ne veut pas être mon épouse. Et si Christ envoie des dons qu'il a promis à l'Église, et que celle-ci les rejette, disant qu'il n'en est pas ainsi, elle ne veut pas être l'épouse de Christ. Elle est l'épouse d'un autre amant et non de Christ, l'époux. Ainsi la véritable Église garde la promesse, et garde tout, et elle accepte les dons que Dieu envoie. Très bien. Et certainement que 5 de ces dons, se trouve dans Éphésiens, le 4e chapitre. Il dit encore dans sa prédication, l'unité 11 février 1962 p. 22. Eh bien, l'Église est maintenant fiancée à Christ en vue du mariage. Le mariage n'a pas encore été conclu, ce sera au souper des noces de l'agneau. Nous voyons donc que l'Église est maintenant fiancée, comme un homme qui est fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui offre simplement toutes sortes de choses, il lui envoie des cadeaux, la met à l'aise. Eh bien, c'est Esther ce que Christ Esther en train de faire à l'égard de son Église. Il nous envoie les dons de l'Esprit. Maintenant, remarquez ce que frère Branham dit après. Parce que c'est Esther très important. Comment pouvez-vous être fiancé? Quand vous niez que ces dons existent, ce sont des véritables signes d'amour. C'est Esther le signe de Dieu à l'Église. Jésus l'a dit, ces signes accompagneront ceux qui y auront cru. Maintenant, que sont certains de ces dons et promesses? Bien. Il cite ici Marc 16 et à d'autres endroits Jean 14, 12. Et à beaucoup d'autres endroits, il parle de ces cinq dons que Dieu a placés dans l'Église, selon Éphésiens 4, etc. Encore dans l'unité 11 février 1962 p. 38. Frère Branham dit, « Maintenant, quand Adam et Ève avaient écouté le mensonge du diable, la sainte image de Dieu, les quitta, et leur communion avec Dieu, était brisée. Entendez-vous ce qu'il vient de déclarer, quand ils avaient quitté la parole de Dieu, en ajoutant une parole venant de Satan, ils brisèrent l'image. Maintenant, l'apôtre Paul nous parle dans Romains 8, 28, que nous devrons être conformes à l'image du Fils premier-né et si Adam et Ève étaient conformes à cette image, mais un seul mot avait glissé, alors être conforme à l'image, Néhémie vient pas seulement par le fait de croire chaque parole, mais en croyant dans sa parole. Ce qui signifie, vous êtes un croyant, en lui. Alors je crois de tout mon cœur, que certains sont déjà devenus conformes à son image, et tout ce que nous attendons, Esther, cette manifestation des fils de Dieu, pour manifester cette image de la parole, de croire toute la parole de Dieu. Remarquez qu'il dit, leur communion dans l'unité avec Dieu, était brisée. La minute même, qu'ils avaient écouté le mensonge du diable, cela a brisé leur communion. Et à la minute même que vous écoutez le mensonge du diable, cela brisera votre communion. Esther, à la minute même que vous sortez de la présence de Dieu, comme elle le fit, Esther, quand vous faillissiez d'accepter la parole de Dieu, telle qu'elle Esther. Oh là là! Quand vous faillissiez d'accepter la parole de Dieu, telle qu'elle Esther écrite, Esther, oh là que vous quittez la présence de Dieu. 39 Suivez maintenant. J'aimerais vous poser une question. Nous savons tous qu'il existe un Dieu. Et si Dieu Esther si fidèle à sa parole, et si déterminé à juger les gens par sa parole, alors il doit garder quelque part une parole par laquelle juger les gens. Et c'est Esther la Bible. N'oubliez pas cela. C'est Esther par la Bible que Dieu jugera les gens, car il Esther dit dans Apocalypse 22, celui qui ôtera de cela une parole ou qui ajoutera une seule parole. 64 Voyez-vous, Néhémie vous contentait pas de dire, eh bien, je vais à l'église. Je crois. Je crois en Dieu. Eh bien, tous les démons de l'enfer croient en lui. Tous sont religieux. Tous. 65 Mais il suffit d'une parole pour briser la communion juste à ce moment-là. Une chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Là où vous êtes plus faible en doutant de la parole de Dieu, c'est Esther là qu'il vous faut mettre un nouveau maillon autant fort que le reste. Si vous croyez que Jésus-Christ sauve, alors vous devez mettre un maillon là qui croit qu'il guérit. Si vous croyez qu'il était, vous devez croire qu'il est Esther. Alléluia. Si vous croyez qu'il était et que vous vous demandiez s'il est Esther, ce maillon se brisera, et alors vous êtes perdu. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est Esther dur, c'est Esther fort, mais c'est Esther la vérité. Vous devez croire en lui, chaque parole, tout ce qu'il a dit. Prenons le paragraphe 43. Eh bien, l'unité dans la communion fut brisée entre Dieu et ses enfants quand elle douta d'un petit paragraphe, d'une petite parole de Dieu. Que ceux qui comprennent cela disent Amen. L'Assemblée dit, Amen. NDE, pas la Bible. Vous dites, je n'y crois pas du tout à la Bible. Je crois une partie de la Bible. Elle devait croire à tout cela. À chaque passage. 71 pas seulement cela. Mais l'unité entre l'homme et la femme était brisée. Je n'y crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. C'est vrai. Ils mettront au monde des enfants dont ils feront des enfants illégitimes, leur offrant des cigarettes, du whisky, jouant aux cartes devant eux, buvant des liqueurs devant eux. Quelque fidèle qu'il soit à leur vœu de mariage, la chose est sexuelle, elle est charnelle. Mais il y a un esprit là-dedans. Cet esprit d'un papa et d'une maman pécheur sera toujours faux. Peu importe combien ils sont fidèles à leurs enfants. 72 Eh bien. Vous dites, je connais des hommes et des femmes qui n'ont pas enseigné cela à leurs enfants et qui n'étaient pas des chrétiens. Le fait même de n'aimer pas les conduire à Christ était la pire des choses qu'ils aient pu faire en plus du reste. En aimant les conduisant pas à Christ. Voyez-vous? Maintenant, laissez-moi ajouter un commentaire ici. J'ai vu des parents qui pourraient dire, bien, si mon enfant est prédestiné à croire, il croira, et il n'y a rien que je n'aimé puisse faire à ce sujet. Et qu'attendez-vous des enfants, ayant grandi sous des parents qui pensent ainsi? Ils viendront difficilement à Christ, parce que tout ce qu'ils feront par leurs efforts pour amener l'évangile à leurs enfants, espérant que quelque part, Dieu frappera cette semence. Mais j'ai vu des parents laisser leurs enfants rester à la maison, le jour du culte, alors qu'il s'agit du seul Christ, que certains enfants Néhémie connaîtront et Néhémie verront jamais. Une sœur est venue vers moi et m'a dit la seule chose que je connaisse au sujet de Dieu et de sa parole. C'est ce que j'ai appris de l'Église, parce que mes parents n'ont jamais parlé de lui, à la maison. Et son père était diacre à l'Église. Quel jugement triste. Les gens jouent simplement à l'Église. Pourtant ils pensent faire partie de l'épouse de Christ. Les gens prétendent croire le prophète du temps de la fin. Pourtant il mène une vie si contraire à ce qui a été vu dans sa vie. Ils se rendent à l'église dans la maison de Dieu et ils peuvent sentir cette présence de Dieu là-dedans. Pourtant quand ils rentrent dans leur propre maison, il n'y a pas de comparaison. Pourquoi? Votre foyer doit avoir la même atmosphère que vous trouvez dans l'église. Votre foyer et la maison de Dieu devraient être identiques en esprit, en révérence, en honnêteté, en intégrité, et devait avoir tous deux la même atmosphère. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous n'avez pas le même Saint-Esprit en vous, que vous sentez dans votre cœur, quand vous entrez dans sa maison, la maison de Dieu. Ainsi, frère Branham dit, ainsi, vous n'y pouvez pas avoir une union correcte sans cela. La communion brisée. 73 Ainsi, dès que la communion fut brisée entre Adam et Ève, dès que leur communion fut brisée entre Dieu et eux, alors, leur communion entre l'un l'autre fut brisée. 74 Écoutez, chaque fois que l'Église brise sa communion pour entrer dans une organisation, la communion entre les croyants est brisée. Nous devons croire d'un même cœur, d'une même pensée, et d'un même accord. C'est ainsi qu'ils étaient avant que l'union Néhémie soit établie au jour de la Pentecôte, un même cœur, une même pensée, et d'un même accord. Et quand vous plongez une église dans une organisation, vous allez obtenir toutes sortes de groupes là-dedans. En effet, là-dedans, Certains de ses enfants vont croire en Dieu. Ils vont s'en tenir à ce qui est correct, et les autres prendront une autre direction. Ainsi, vous n'aurez pas de communion. Oui. Dans sa prédication, Portez toute l'armure de Dieu 1er juillet 1962 p. 55. Frère Branham dit, Oh, là au commencement, c'était la parole parlée. Maintenant la voici, vous pouvez la toucher, elle est faite chair. Et alors, quand l'ennemi a continué à venir comme un fleuve, il a déversé la parole dans l'homme, sous la forme du Saint-Esprit. Voilà de nouveau votre 1, 2, 3, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, comme Père, Fils et Saint-Esprit, et ainsi de suite, dans la perfection. 75 Maintenant, observez la parole parlée. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, la parole au-dessus de nous, la parole avec nous, la parole en nous. Alléluia. Vous appartenez à Dieu, vous êtes l'armée de Dieu, en marche, la parole parlée de Dieu au-dessus de nous dans la colonne de feu, la manifestation de Dieu, de sa parole dans la chair, maintenant, l'Esprit de Dieu, la parole parlée, en nous. Amen. Oh. Écoutez. La mesure de la parole. Esther, la mesure de l'esprit. Pourquoi pensez-vous que les gens croient que William Branham avait la plénitude de la divinité en lui? Parce qu'il avait la parole entière et il a révélé la parole dans sa totalité. Maintenant, William Branham a dit qu'il avait l'esprit de Dieu avec mesure, mais Christ avait l'esprit de Dieu sans mesure. Le rapport du voyage de l'Inde p. 58. Or, Dieu a donné à Christ l'esprit sans mesure. Esther ce juste, la plénitude de Dieu était en Christ. Il était Dieu Emmanuel. Nous savons cela. Nous n'avons aucun doute dans nos esprits là-dessus. Si Esther juste comme je l'ai dit hier, tout l'océan Esther rempli d'eau. Et toutes les eaux de l'océan étaient en Christ. Mais ce petit nom que vous voyez en train d'opérer ici, c'est Esther juste une toute petite portion de comme cela une cuillère posée là. Sans Esther qu'une goutte. Je peux voir cela. Mais en Christ était la plénitude de Dieu. Nous avons l'esprit avec mesure. Lui en avait sans mesure, dit la Bible. La persévérance 19 juillet 1962 SP, 26. Regardez Christ. Il était la plénitude de Dieu. Dieu habitait en Christ sans mesure. Il avait l'esprit sans mesure. Nous, l'avons avec mesure. Mais si j'ai une cuillerée d'eau du lac ici, l'océan, c'est ce qui était en Christ. Si j'ai une cuillerée d'eau, ça serait juste une cuillerée d'eau de cela. Mais les mêmes composants chimiques qui sont dans tout l'océan se retrouvent dans cette cuillerée. Seulement pas. Ce snester n'ester pas la même quantité de cela, mais les mêmes composants chimiques. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, ce sont les mêmes œuvres et le même Esprit, la même manifestation. Voyez. Cela donc. Faites donc reposer votre foi là-dessus. Et quand vous voyez ce que c'est Esther, alors vous pouvez être persévérant. Vous savez où vous vous tenez. Je me souviens, il y a de cela quelques années, un frère m'avait dit, je n'ai m'y comprends pas pourquoi frère Vel a tellement de paroles, mais manque l'esprit. Vous voyez ce frère, regarde au vase, et non au Dieu qui utilisait ce vase. Ainsi, je lui ai dit, la mesure de la parole, c'est Esther la mesure de l'esprit. Et il a dit, ce n'est pas possible. Je n'ai mis le croit pas. Et j'ai dit quand Jean voulut voir la voix, il vit la lumière. La voix qui parlait était la lumière. Pas de différence. Ainsi, cela n'a rien à voir avec le vase. Gardez vos yeux sur la parole et vous verrez l'esprit. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et ainsi, la mesure de la parole de Dieu, qui vit en vous, est aussi la mesure de son esprit. Dans sa prédication, présumée 17 janvier 1962 p. 20, frère Branham dit, il est écrit dans Saint Jean, je pense, vers le chapitre 15, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous. Voyez, la parole demeure en vous. Voyez, demandez alors ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Parce que ce n'est pas vous, c'est la parole qui est en vous. Et la parole est Dieu, voyez, Dieu en vous. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Maintenant, au retour du Saint-Esprit, apportant la parole en nous, et il demeure à l'intérieur, alors ce n'est pas vous qui parlez, c'est la parole qui s'exprime. Ainsi, c'est la parole qui accomplira l'œuvre. Vous savez que nous croyons tous qu'un jour, l'épouse aura la parole parlée, comme frère Branham nous l'a dit au sujet du troisième pull. Elle prononcera la parole et elle accomplira ce qui sera prononcé. C'est ce que frère Branham nous a enseigné dans sa prédication. La parole parlée est la semence originale 18 mars 1962 SP 175. Remarquez, quelle harmonie. Et quelle est cette harmonie? C'est une unité. C'est défini comme agrément, accord, relation harmonieuse. Et ainsi, nous entendons frère Branham parler de cette relation harmonieuse, cette unité entre Christ et son épouse. Quand il dit, remarquez, quelle harmonie. Jésus n'aimait faisait jamais rien qu'il n'ait d'abord vu faire au Père, ou qui n'est mis lui a d'abord été montré par le Père. L'harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5, 19. Il en sera de même de l'épouse, et il lui montre sa parole de vie. C'est lui qui la lui montre, et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Rien n'est mis peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Amen. Et là, j'aime un gros Alléluia. Voici le secret. La parole est dans l'épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Et elle le fait en son nom. Elle a ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole est fécondée. Alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. 421. Ils font uniquement sa volonté. Amen. Oui, je crois ça. Personne n'est mis peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu. Car c'est lui-même en eux qui continue à accomplir sa parole, comme il l'avait menée à terme à son époque. Toute chose, quand il était ici, il n'a pas tout mené à terme quand il était ici, car ce n'était pas encore le moment. Ainsi, nous voyons l'harmonie ou l'unité qu'il doit y avoir avec sa parole. Un mariage où l'épouse contrôle l'époux, ce n'est pas un mariage. C'est une confusion. Un vrai mariage est là où, comme la Bible le dit, l'homme est le chef de la femme, et Christ est le chef de l'homme. Vous n'y pouvez pas vous attendre à voir l'harmonie dans un mariage. Aussi longtemps que l'épouse essaie de contrôler le mariage. Et quand ils agissent ainsi, elles montrent qu'elles ont un esprit perverti. Et ce n'est-ce pas conduite par l'Esprit de Dieu? C'est-ce son égoïsme et cela montre qu'elle n'est pas morte en elle-même. Dans sa prédication, qui dites-vous que c'est-ce 27 décembre 1964 p. 44. Frère Branham dit, je me demande si cette grande chose, ce conseil écuménique que nous avons, dans le monde aujourd'hui est le conseil mondial des églises, qui s'unissent pour nous amener nous tous à être un. Je me demande s'ils se rendent compte que c'est exactement ce que les Écritures disent qu'ils feraient. Mais ils croient que c'est la chose la plus merveilleuse au monde, que nous puissions tous joindre nos mains et être un. Ils ont dit, Jésus a prié pour que nous soyons un. C'est vrai, mais pas cette sorte d'unité. Il a dit, soyons un, comme moi et le Père, sommes un oui, soyez unis de cette manière-là. Alors, comment cela se fera-t-il? La parole en nous sera la parole ointe. C'est l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Voyez, et alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. Dans sa prédication, vous devez naître de nouveau 31 décembre 1961 p. 135. Frère Branham dit, maintenant, rappelez-vous bien. Je crois que Jésus-Christ dans sa première doctrine dit ceci à chaque être humain, si un homme n'est aimé né d'eau, c'est la parole. Le lavage d'eau par la parole et d'esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit confirmant la parole. Il n'est ému peut voir le royaume des cieux. Croyez-vous cela? Voyez-vous? D'eau. Le lavage d'eau par la parole. La parole est la vérité. Il est la vérité, l'eau et l'esprit. L'esprit venant avec la parole pour confirmer la parole. Faisant que Dieu vive en moi. Voyez-vous? Nous n'aimons pouvons comprendre le royaume des cieux tant que cela n'aimons s'ester pas produit. Ensuite, quand cela commence à se produire, que nous voyons la parole en nous, que nous naissons de la parole et de l'esprit qui se manifeste lui-même, qui n'aimons m'éloigne pas de la parole. L'esprit me conduit à la parole. Alors la parole vivant en moi manifeste Dieu dans votre vie. Sans cela, vous n'y pouvez pas comprendre le royaume de Dieu et vous n'y pouvez d'aucune façon y entrer. Maintenant, laissez-moi lire une citation de plus et ensuite nous rentrerons dans les Écritures. Dans sa prédication, la parole parlait Esther la semence originale 18 mars 1962 p. 162. Frère Branham dit, maintenant, la puissance de l'Église croyante, Christ possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Le croyez-vous? Alors qu'en il s'il vit en vous? Christ a-t-il toute la puissance? Matthieu 28, 18. Très bien. Il est la semence parole dans son corps, et lui en nous, devient la semence parole en nous. Qu'est-ce? Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, et tout ce que Christ était, a été déversé dans l'Église, c'est la puissance. Maintenant, Dieu nous a promis dans Éphésiens 1, 17-18, qu'il viendra en cette heure, avec l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances. Lisons-le pour nous-mêmes. Éphésiens 1. 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance. Maintenant, Frère Branham nous a enseigné cette écriture dans sa prédication, les 70 semaines de Daniel 6 août 1961 p. 36. Elle se retrouve dans cet état-là. Et tout ce que ça montre, c'est-à-dire que c'est juste une période dans le temps. Néhémie, voyez-vous pas? Dieu ne peut pas voir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c'est ça qui est arrivé. Et c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Il ne l'a pas fait auparavant. Et s'il ne l'a pas fait, c'est pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps, Néhémie sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez? Dans Daniel 12, il a dit, le sage comprendra, au dernier, en ces derniers jours, cela lui a été donné. 68 L'esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est revenu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? Ainsi, juste comme Gabriel, un ange de la part du Seigneur, vint à Daniel, un prophète de Dieu, excepté pour ce temps, ce Néhémie sera pas Daniel, mais ce sera l'ange du Seigneur, lui-même, venant à un prophète. Et ainsi, Paul nous dit que cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de celui qui est descendu, est revenu dans un but. 18 Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, ainsi qu'est de faire connaître la doxa de Dieu, ses opinions, ses valeurs et ses jugements, et il dit que c'est l'héritage des saints. Vous savez quand un homme meurt, il laisse un héritage à ses enfants, souvent ce sont des biens terrestres. Mais notre héritage est plus grand que toute autre chose ou tout autre endroit. Notre héritage, c'est la parole de Dieu en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans Colossiens 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous. L'espérance, l'attente sérieuse de la gloire. La doxa, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Christ en vous. C'est votre attente de cette doxa. Pourquoi? Parce que personne Néhémie comprend les choses de Dieu, à moins que l'Esprit de Dieu, Néhémie soit en lui. C'est 1 Corinthiens 2. Comme Jésus l'a dit, à moins qu'un homme Néhémie soit né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il Néhémie peut voir, signifie, il Néhémie peut pas comprendre les choses de Dieu. Et la mesure de son esprit, est la mesure de sa parole en vous. Car Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et ainsi, comme frère Branham l'a indiqué dans plusieurs citations que nous avons lues aujourd'hui, quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez Dieu en vous. Ainsi, l'apôtre Paul continue à dire au verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et comment est ce que la parole de Dieu devient actualisée en nous? Il nous dit dans Philippiens 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Par conséquent, si Dieu est la parole, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ensuite, quand cette parole entre en vous et que vous êtes vivifié par elle, alors cette même parole qui est esprit, vous vivifiez cette parole et maintenant, les Écritures deviennent un journal de bord dans votre propre vie. Et ce que Dieu a dit, vous Néhémie le croyez seulement pas dans sa forme écrite, mais vous la voyez dans une réalité manifestée. Raison pour laquelle au temps de la fin, nous devons arriver à un endroit où la doxa de Dieu, devient manifesté dans nos vies, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 7-12. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, révélé du ciel avec ses anges. Regardez à cette photo sur le mur là-bas. Cette nuée que vous voyez, est une nuée de témoignages comme Paul le dit dans Hébreux 12, 1. Cet ange et un prophète de Dieu, enlevé dans cette nuée des témoins. Et Esther revenue pour ouvrir les sceaux, ainsi, décelant aussi la vision de Daniel. Ensuite, au verset 8, l'apôtre Paul dit, « Huit au milieu d'une flamme de feu, c'est Esther la colonne de feu, le juste juge se tenant à la porte et observait ce qu'il dit, pour punir ceux qui n'aiment ni connaissent pas Dieu, qui n'aiment ni font pas attention à Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Voyez, se vengeant sur l'incroyant et le soi-disant croyant. 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Ainsi, ils sont séparés de la présence de Dieu et de la gloire, la doxa, de sa force. Ainsi, ils n'y sont pas seulement séparés de sa présence, mais de sa doxa aussi, qui sont ses opinions, ses valeurs et ses jugements. Ce qui Esther sa manière même de penser. Ainsi, nous voyons qu'au temps où la présence de Dieu descend dans une colonne de feu, il se venge comme le juste juge. Ce qui Esther Jacques 5, 1 et sépare l'incroyant et le soi-disant croyant, non seulement de sa présence mais aussi de sa parole, ses pensées, sa doxa. Mais Néhémie vient pas seulement pour faire cela, car Paul continue à dire qu'il vient aussi pour nous, ses élus. 10. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, en doxa zoé dans ses saints. La doxa de Dieu manifestée dans notre zoé, dans notre vie et admirée dans tous ceux qui y auront cru, car notre témoignage, l'évangile de Paul, auprès de vous a été cru. 11. Esther, pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi. 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons deux choses qui arrivent ici. La bénédiction et la malédiction. Ceux qui sont bénis Néhémie sont pas seulement dans sa présence, mais sa présence Esther en eux. Et non seulement cela, ses moyens pour voir et penser viennent aussi en nous en ce temps. Mais pour les autres, ils entrent dans les fléaux et les malédictions de Deutéronome 28, parce qu'ils n'ont placé leur intérêt dans la voie de Dieu, quand elle Esther descendue avec son cri, lequel Esther son message. Pourquoi? Crier. Par le 14 juillet 1963 p. 65 maintenant, regardez donc ce qui arrive. Moïse a vu ceci dans sa vision, mais Pharaon a dit, ceci est Esther grand. Dieu a dit, c'est Esther une abomination. Ainsi, Dieu. Moïse a choisi ce que Dieu avait dit. 168 maintenant. Remarquez. La foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit. 169. Mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Remarquez. Le raisonnement, eh bien, s'estère seulement du bon sens humain. S'estère seulement raisonnable que, eh bien, ceci n'est-il pas tout aussi bon? Voyez-vous? C'est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens, qui sont contraires à la parole. Voyez, c'est alors ce que le monde désire que vous voyez. 170. Mais la foi n'aime et regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu a dit. Voyez-vous. Vous savez, vous renversez les raisonnements. Et dans sa prédication, Combattre pour la foi 20 février 55 à 66. Frère Branham dit, Jésus a dit, si un homme naît de nouveau, il Néhémie peut voir le royaume. Vous Néhémie pouvez pas comprendre cela. C'est-ce quelque chose de mystique? De mythique si vous n'êtes pas né de nouveau. Là, la vie même de Dieu entre en vous. La vie éternelle, perpétuelle, Zoé, la vie même de Dieu entre en vous. Et alors, vous devenez une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et alors, vous voyez comme Dieu. Vous croyez comme Dieu. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, bilvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.